Le vieux logis. Nous sommes face aux trois tours. Nous ne sommes pas dans une cour extérieure, mais bien à l'emplacement du logis seigneurial. Comme nous l'avons dit, il est largement remanié à la fin du XIVe siècle par Louis II, troisième duc de Bourbon. À cette époque déjà, le château est rarement occupé par ses propriétaires qui vivent dans l'entourage des rois de France depuis Louis Ier, le grand-père de Louis II. Le logis comprend deux niveaux. L'étage supérieur est, comme il est d'usage, destiné au duc et à ses proches, et le rez-de-chaussée, aux gens en armes et aux domestiques. Les deux niveaux étaient divisés en deux espaces, à hauteur de la tour centrale. Cela explique la présence de deux portes d'accès au milieu du mur nord du logis. Elles permettaient l'accès à la tour centrale. L'une a été murée récemment à gauche du pilastre central. L'étage supérieur était couvert d'une croisée d'ogives. Les nervures du plafond de l'étage sont un remploi du logis du XIIIe siècle. Le logis est adossé aux courtines du front nord. La courtine, c'est le mur crénelé reliant deux tours entre elles et communiqué avec les trois tours au rez-de-chaussée. Il se composait d'un retour à l'est, côté faubourg du château, probablement surélevé au XVe siècle seulement, une aile dans le prolongement de laquelle sont édifiées successivement deux chapelles castrales. La plupart des travaux engagés sous Louis II au château de Bourbon ne sera jamais achevé. Les murs ne comportent aucune trace d'enduit de chaux ou de décor peint, ainsi qu'il est d'usage, entrelacs, frises, arcs brisés, rinceaux, etc. Les seuls vestiges d'enduit se découvrent sur le parement, c'est-à-dire le mur, du XIIIe siècle, notamment dans l'angle nord-ouest du logis et sur l'encadrement primitif de la porte de la tour de l'ouest. Observez les ancrages au niveau du premier étage, sur le pilastre flanquant la tour centrale. Ils témoignent de la cloison qui séparait les deux espaces. En face, sur le pilastre opposé, notez les vestiges d'une porte au premier étage dont on devine le linteau effondré, l'emplacement des charnières scellées au plomb et du loquet de fermeture à glissière. Dans l'angle nord-ouest du logis, sous la porte rebouchée desservant le premier étage, observez également les vestiges d'un enduit blanc. Notez le dernier chapiteau subsistant et les reins des nervures formant les arcs brisés effondrés. Le décor de feuilles de chou plaide en faveur d'un remaniement de la voûte au XVe siècle. La croisée d'ogives n'est pas seulement ornementale, elle est architectonique et permet de couvrir le logis d'une terrasse, chose courante dans la seconde moitié du XIVe. À 7 mètres du sol, des poutres maîtresses de chêne étaient logées dans des espaces réservés entre les blocs de pierre. Notez les impressionnants corbeaux, sont des pierres saillantes qui venaient en renfort. Les corbelets en aplomb sous les corbeaux recevaient quant à eux des liens ou jambes de force. Observez le bûchement en biais de la pierre. La structure devait être suffisamment solide pour supporter le poids d'un plancher couvert d'un dallage de tomettes rouges et noires en damier. Les cheminées superposées, deux paires, disposent d'un système de deux conduits jumelés dans l'épaisseur du mur sur toute la hauteur du logis. Notez enfin par-ci par-là, outre les signes lapidaires que l'on attribue traditionnellement aux tailleurs de pierre, les graffitis laissés par les visiteurs du passé qui ont voulu, en gravant leur nom sur ces pierres, laisser une trace de leur passage.